Radio Django, la rose des vents.
Les droits humains, pas d'accord du l'homme. Les droits humains, et pas d'accord du l'homme.
Pour un autre vivre ensemble. C'est ça le collectif R et c'est ça sa force.
Bon anniversaire au retour de Saint-Laurent. Bon anniversaire et longue vie à la désobéissance.
Comme vous l'aurez compris avec cet extrait de la manifestation du 12 mars dernier à Lausanne, réunissant plus de 500 personnes contre les accords de Dublin. Ce soir, dans Presse Papier, nous revenons sur cette occupation depuis un an maintenant du refuge de Saint-Laurent à Lausanne. Nous en parlons avec Yves, bonsoir.
Bonsoir, Fabien.
Et nous en parlons aussi avec notre invité Pierre Conscience, bonsoir.
Bonsoir.
Et tu es du collectif R.
Tout à fait.
Donc, il y a un an, le 8 mars 2015, commençait l'occupation de l'église de Saint-Laurent, en plein centre-ville de Lausanne. La salle de paroisse, non sans quelques passes d'armes avec la hiérarchie de l'église protestante, devenait un lieu de protection pour 6 migrants menacés de renvoi. Il s'agissait de Michele, Amar, Mohamed, Mikili, Abraham, qui ont fui la guerre et la dictature en Érythrée, et une opposante au régime éthiopien qui a réussi à quitter son pays après un séjour en prison. Ils et elles ont fait un long et périlleux voyage, mais n'ont pas eu le droit de déposer leur demande d'asile en Suisse à cause des accords Dublin sur lesquels nous allons revenir. La paroisse de Saint-Laurent devenait aussi l'épicentre d'une contestation sociale contre ces accords de Dublin et leur application en Suisse. Ce soir, nous faisons le point sur cette année de lutte, de résistance et de désobéissance.
Pierre Conscience, vous êtes membre du collectif R. Pouvez-vous nous rappeler les raisons qui ont conduit à cette occupation et que sont ces fameux accords de Dublin ?
Si vous voulez, au début du mois de mars de l'année 2015, l'association, le collectif Droit de Rester, faisait face à une vraie crise dans les permanences qu'ils organisent chaque semaine depuis maintenant de nombreuses années pour venir en aide aux requérants d'asile qui cherchent à obtenir un permis de séjour en Suisse. Une vraie crise parce qu'il y avait de plus en plus de personnes qui étaient menacées de renvoi dans le cadre des accords de Dublin. Alors on peut y revenir, mais c'est cette recrudescence de personnes menacées de renvoi à cause de ces accords qui ont fait que le collectif Droit de Rester a sollicité l'aide de plusieurs citoyens et citoyennes solidaires, personnes engagées dans d'autres associations, mais aussi des personnes qui n'étaient pas engagées, pour ouvrir ce refuge qui maintenant, depuis un an, permet d'empêcher le renvoi, qui a permis d'empêcher le renvoi d'une quarantaine de personnes.
Peut-être juste, donc ces accords de Dublin, si on peut préciser ce que c'est, pourquoi une personne ne peut pas déposer l'asile en Suisse à cause de ces accords de Dublin ?
Si vous voulez, les accords de Dublin, en quelque sorte, c'est un deal qu'ont fait les États européens, ainsi que la Suisse et quelques autres pays limitrophes à l'Union européenne, comme mode de répartition des migrants en Europe. Et au fond, cet accord demande à chaque pays membre de renvoyer tout requérant d'asile dans le premier pays par lequel il a transité dans l'espace de cet accord, c'est-à-dire en Europe. Du coup, la conséquence est évidente, c'est que dans un cadre de crise migratoire aussi grave que celui qu'on vit aujourd'hui, eh bien, il y a des centaines de milliers de migrants qui se retrouvent coincés dans des pays comme l'Italie, la Grèce, la Hongrie ou la Bulgarie, où les conditions d'accueil prennent de plus en plus le contour d'une vraie crise humanitaire. Je tiens juste à rappeler rapidement que en Italie, il y a trois réfugiés sur quatre qui vivent dans la rue. En Hongrie, des nouvelles lois sécuritaires font que des migrants se font tabasser dans le cadre d'interrogatoires parce qu'ils seraient supposés participer à des activités terroristes ou pour d'autres raisons encore moins valables. Donc vraiment, c'est des pays dans lesquels les conditions d'accueil sont extrêmement néfastes pour ces personnes. Et c'est pour ça que la Suisse profite de ces accords et c'est ce que nous contestons.
Mais est-ce qu'au départ, l'idée, c'était d'obtenir un examen pour ces 6 personnes qui n'avaient pas pu demander l'asile en Suisse, ou est-ce qu'il s'agit d'un objectif plus politique, plus général, supprimer les accords Dublin ou les...
Alors bien sûr, le refuge s'est ouvert pas seulement pour ces 6 personnes. Ces 6 personnes n'étaient et ne sont encore que le point d'orgue d'une situation beaucoup plus dramatique. Des personnes menacées de renvoi dans le cadre des accords de Dublin existent aujourd'hui par centaines dans le canton de Vaud et par dizaines de milliers à l'échelle fédérale.
Mais ça veut dire que le refuge, il pourrait durer alors 10-15 ans. Jusqu'à, tant qu'il y aura des Dublin, il y aura le refuge à Saint-Laurent ?
Alors tant qu'il y aura les accords Dublin, le collectif R se battra, que ce soit par le refuge à Saint-Laurent, que ce soit par un autre refuge, ou d'autres modes d'action. Hein. Nous n'avons pas seulement un refuge, nous avons mobilisé à plusieurs reprises des milliers de personnes dans la rue. La société civile se mobilise avec nous, plus de 170 personnalités, artistes, professeurs d'université, politiques de tous bords confondus, s'engagent avec nous pour contester ces accords de Dublin.
C'est des parrainages, ça, c'est ça.
Alors non, il y a une lettre ouverte qui avait été signée en avril par 170 personnes et qui avait été publiée dans le temps. Mais on a aussi en effet tout un réseau de personnalités qui se nomment parrain ou marraine pour protéger des migrants et s'engagent avec elles. C'est le cas par exemple de David Payot, le nouveau municipal popiste de Lausanne, qui s'est engagé pour défendre un migrant qui s'est retrouvé assigné à résidence il y a quelques jours et pourrait avoir été renvoyé aujourd'hui. Un exemple tout frais d'une de ces situations tout à fait scandaleuses que mène le Conseil d'État.
Comment s'est organisée la vie dans la paroisse au jour le jour? Donc ça fait un an que vous êtes là, donc il faut organiser des repas, des permanences, je crois que vous organisez peut-être aussi des cours, il faut des personnes qui sont là aussi la nuit. Comment ça se passe au quotidien?
Alors bien sûr, en effet, on le disait tout à l'heure, le refuge est à la fois un outil politique pour contester les accords de Dublin, mais c'est aussi évidemment un lieu d'intégration, de partage avec les personnes qui y vivent, avec ces personnes menacées de renvoi. D'ailleurs, certaines des personnes que vous évoquiez au début ont pu sursoir à leur renvoi et donc maintenant sont sorties de refuge, d'autres sont venues. Et avec ces 8 personnes, en effet, ben, ça nécessite tous les jours des dizaines de militants, de citoyens et de citoyennes solidaires qui donnent des cours de français, aident à l'entretien des lieux, à la vie collective, participent à des activités, à des sorties aussi, parce que c'est aussi ce que ça permet, c'est de pouvoir les protéger lors de sorties, car tout seul, ils seraient beaucoup plus exposés à d'éventuelles arrestations. Donc voilà, c'est tout un travail qui nécessite un grand effort, mais le fait, en fait, qu'on arrive à tenir ce refuge témoigne de la popularité de nos revendications et de la mesure dans laquelle on a vraiment réussi à élargir les soutiens contre ces accords de Dublin.
Et les personnes migrantes elles-mêmes, quelle est leur place dans le mouvement, dans l'organisation du quotidien et puis peut-être dans la stratégie de la lutte elle-même?
Alors, ils y ont toute leur place. Hein. Nous avons des assemblées, d'ailleurs, ouvertes à toutes et tous, tous les jeudis à 19h. Toutes les personnes qui nous écoutent sont évidemment les bienvenues si elles veulent agir avec nous. Les habitants du refuge, comme toute autre personne, participent aux décisions de ce collectif. Évidemment, ce sont aussi des personnes qui sont fortement frappées par leur parcours migratoire, par leur situation. Il y a pour certaines d'entre elles la barrière de la langue qui font que c'est toujours un peu plus difficile pour elles que pour un citoyen lambda de participer aux décisions et aux orientations stratégiques ou tactiques du mouvement. Mais c'est un de nos efforts principaux que de tout faire pour qu'ils soient partie prenante de cette lutte.
Donc vous appelez le collectif R. Dans le fond, quand est né ce mouvement? Est-ce qu'il est né avec le refuge, avant, après? Et ça veut dire quoi, R?
Il est né le 8 mars 2015 avec l'ouverture du refuge dans la paroisse de Saint-Laurent. R peut vouloir dire beaucoup de choses, peut vouloir dire refuge, peut vouloir dire réfugié, peut vouloir dire résistance, peut vouloir dire refus de se laisser faire. Bien évidemment, c'était le mot refuge qui a donné naissance à ça, mais je crois que alors il y a vraiment mille noms qu'on pourrait apposer à cette lettre dans ce contexte.
Le collectif R, donc, c'est aussi un site web, www.désobéissant.ch, c'est aussi Facebook, Refuge Saint-Laurent. Donc, vous êtes très actif, beaucoup de posts avec des photos, des vidéos qui sont vraiment très bien faites, des affiches, des tracts qui sont assez soignés au niveau visuel. Est-ce que vous avez des graphistes qui vous ont rejoint, Pierre Conscience?
Mais tout à fait, et puis justement c'est encore un autre témoignage du fait qu'on est vraiment un mouvement riche dans sa composition, c'est que c'est pas du tout le petit cercle habituel de défenseurs et de défenseuses du droit d'asile en place lausannoise. Ça s'est vraiment élargi et c'est aussi du coup vraiment une force, à la fois une force numéraire mais aussi qualitative, c'est-à-dire que des gens viennent avec leurs compétences et on peut tous se rendre utile pour le collectif R et pour soutenir ces personnes menacées de renvoi à cause des accords de Dublin. Des personnes viennent avec leurs compétences graphiques, d'autres viennent et sont des champions de la communication sur les réseaux sociaux, d'autres sont très forts pour organiser des choses, les professeurs de français, enfin bref, on peut de toute façon se rendre utile et toutes et tous sont évidemment les bienvenus pour rejoindre ce combat.
Donc un des grands moments de votre mouvement, c'était, je crois, le 12 mai, où le Grand Conseil vaudois à majorité de droite vous a soutenu dans une résolution qui demandait la suspension des renvois vers l'Italie, qui était donc une de vos revendications, et qui enjoignait le Conseil d'État à demander à la Confédération d'activer la clause de souveraineté, qui permet donc à la Suisse d'ouvrir elle-même les dossiers de requérants. Qu'est-ce que ça a débouché? Sur quoi cette ouverture?
Eh bien, malheureusement, le Conseil d'État visiblement prend son Parlement, qui serait censé être son autorité suprême, pour un vrai paillasson, parce qu'il refuse catégoriquement d'appliquer ne serait-ce qu'une virgule de cette résolution qui a été votée le 12 mai dernier que vous évoquiez. C'est parfaitement scandaleux. Monsieur Lebas se prétend à chaque fois appliquer strictement la loi. Eh bien, je considère que la loi, c'est aussi les résolutions qui sont votées par le Grand Conseil, qui demandaient la suspension, comme vous le disiez, des renvois vers l'Italie. Or, justement, hier encore, une personne Dublin a été renvoyée vers l'Italie, où il n'y a vraiment plus du tout de capacité d'accueil. Je rappelle juste aussi que la Suisse a déjà accueilli plus du double de réfugiés qu'elle n'en a accueilli en 2015. Il y a donc un vrai potentiel. Et les autorités communales et cantonales ne peuvent certes pas changer toute la politique d'asile de la Suisse, c'est pas de leur ressort, mais elles peuvent faire des choses à leur manière. Et le rôle du canton de Vaud, le rôle humanitaire du canton de Vaud, ce serait d'arrêter d'effectuer les renvois dans le cadre des accords de Dublin aujourd'hui.
Donc le Conseil d'État, il est fustigé pour son inaction. Néanmoins, il vous a proposé de déposer des demandes de réexamen au secrétariat d'État des migrants. Je crois que 40 dossiers ont été transmis à Berne. 37 personnes ont pu échapper à un renvoi. Donc il y a quand même quelque chose qui s'est fait.
Oui, non, vous faites un faux parallèle. Ces demandes de réexamen mènent toujours pas à un refus. Donc c'est vraiment un jeu de dupes. C'est nous faire des dépenses et de gaspiller notre énergie dans des démarches juridiques qui ne peuvent pas gagner.
Donc pour le moment, personne n'a été régularisé dans le mouvement.
Si, les personnes ont été régularisées, mais par le fait qu'en fait, dans cette mécanique automatique des accords de Dublin, il y a une faille, et c'est celle que nous exploitons. En fait, les accords de Dublin ne peuvent s'appliquer que dans un délai de 6 à 18 mois.
J'allais le dire, toutes ces procédures prennent beaucoup de temps.
Toutes ces procédures prennent beaucoup de temps, mais à la fois, c'est tout l'aspect complètement artificiel et relatif au fond de ces accords. C'est que si la personne arrive à gagner au jeu de cache-cache avec les autorités cantonales et fédérales pendant 6 ou 18 mois, eh bien, alors, elles peuvent sursoir au renvoi à Dublin et déposer une demande d'asile ordinaire dans un contexte d'une loi d'asile qui est déjà très oppressive. Et c'est comme ça qu'on a réussi à obtenir 40 régularisations. Ce sont 40 personnes qu'on a soit protégées par le refuge, soit protégées par notre réseau de parrains et marraines pour dépasser ce délai et pouvoir ensuite déposer une demande d'asile.
Alors, peut-être juste une dernière question pour aller peut-être au-delà de la Suisse. Les dirigeants européens ont donné leur feu vert vendredi dernier, 18 mars, à un accord avec la Turquie censé tarir le flux de réfugiés vers l'Europe. Donc, après la fermeture de la route des Balkans, la route grecque est censée être une impasse et tous les nouveaux migrants arrivant en Grèce sont renvoyés automatiquement en Turquie. Les autorités, notamment les conseillers d'État, les conseillers fédéraux, pardon, UDC, ont agité l'idée de mettre l'armée aux frontières. Pierre Conscience, quelle analyse faites-vous de cette situation européenne de crise ?
Bah, c'est vraiment dramatique, je crois, là où on en arrive, avec des deals financiers. Je te donne quelques milliards, en échange, tu reprends quelques dizaines de milliers de personnes qui fuient la guerre, la misère. Ça donne vraiment envie de gerber, je crois. Je parle même pas de la proposition de l'UDC, qui est de toute façon un épouvantail qui s'élève. Il y aura jamais d'armée aux frontières dans la situation actuelle. C'est du n'importe quoi. Néanmoins, je pense que ces mesures témoignent d'une chose, c'est que si ça va pas du tout dans la bonne direction, ça montre bien au moins que ces accords de Dublin sont caducs. Mais il y a au fond une course de vitesse maintenant. Les accords de Dublin vont sauter tôt ou tard parce qu'ils ne répondent pas à la crise migratoire actuelle. La question est de savoir si, en sautant, ça va permettre aux forces réactionnaires et nationalistes de pouvoir faire s'ériger de plus en plus de murs en Europe, ou si notre message, un message humaniste, un message d'accueil, réussit à faire le dessus. Et pour ça, il faut que la population se mobilise, arrête d'être simplement solidaire en parole, mais agisse avec nous.
Bon, ben, il y a encore du boulot pour les prochaines années. Ouais. On vous recevra, j'espère, dans une année pour le bilan de la deuxième année. Merci beaucoup, Pierre Conscience, du collectif R. Et merci à Yves pour ce presse-papier. Un presse-papier qu'on peut également appeler un peu le bilan de cette première année du collectif R. Le presse-papier de la revue de presse des migrants sur Radio Django est à retrouver sur www.django.fm.